C'est l'heure du journal du lundi avec vos rendez-vous habituels et vous retrouverez notamment la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Le Petit Chou reste toujours à quai. Le bateau a subi une avarie il y a 3 semaines. Il n'est toujours pas prêt à reprendre ses rotations. Des températures chaudes attendues pour ce début de semaine en Calédonie, mais rien d'anormal, nous diront les services de Météo France. À l'étranger, la chute de Bachar el-Assad et du pouvoir syrien, ce sont les islamistes radicaux qui ont pris le pouvoir en quelques jours seulement. Et puis la parenthèse de la réouverture de Notre-Dame de Paris est refermée. Emmanuel Macron est en première ligne désormais pour trouver un nouveau Premier ministre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer ces titres, parlons sport, puisqu'on se retrouvera pour le MAC des sports à la fin de ce journal. Michael Juneski, bonjour.
Bonjour Jean-François.
On parlera notamment handball et tout va bien pour l'équipe de France au championnat d'Europe.
Exactement, avec un statut assumé, nos championnes du monde et vice-championnes olympiques poursuivent leur aventure. Déjà un rêve de titre, elles sont d'ores et déjà qualifiées pour le dernier carré. Toujours invaincues dans le tournoi, à 2 jours de faire face à la Hongrie, avec l'objectif de terminer en tête de leur groupe. On se dirigerait ainsi vers une nouvelle finale au sommet entre les Françaises et les Norvégiennes, nos meilleurs ennemis pour changer, une envie de revanche après les JO perdus de Paris.
On parlera également football avec la suite et la fin de la 14e journée de Ligue 1.
Oui, absolument, avec notamment cette victoire de l'Olympique de Marseille qui s'impose face à Saint-Étienne en match de clôture, et puis surtout les Nantais d'Antoine Comboiré qui renouent enfin avec la victoire. Ça faisait 9 matchs de suite sans succès. Les Nantais d'Antoine Comboiré qui ont réussi à s'imposer de peu dans le derby de l'Ouest face à Rennes sur le score de 1-0.
Un mot de F1 ?
Oui, Lando Norris qui a offert le titre des constructeurs au McLaren. Le Britannique s'est imposé pour la dernière course de la saison à Abu Dhabi. Il a résisté au Ferrari. Une course folle pour la Scuderia qui a tout tenté, mais les McLaren retrouvent enfin un sacre après lequel elle courait depuis 1998.
Et puis notre invité sera, on parlera kickboxing avec
Cédric Do.
Cédric Do.
Il poursuit son aventure absolument. On l'appelle le Calédonian Fighter. Il sera notre invité. Il avait brillé lors de sa dernière sortie internationale en Croatie cette année avec une nouvelle victoire. Il sera donc dans nos studios pour évoquer ses prochains objectifs, sa recherche de sponsors, mais aussi son travail qui continue auprès de la jeunesse. Ce sera donc à suivre dans le MAC des Sports.
Dans un instant, nous allons retrouver la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Mais avant cela, cette information parvenue en toute fin de matinée. Première Resources annonce en effet le redémarrage de ses activités industrielles et minières. C'est une étape cruciale pour l'avenir de l'entreprise après 7 mois d'arrêt, indique l'industriel dans un communiqué. Ce redémarrage se fait sous le signe de la sécurité et de la performance. La sécurité des employés et le respect des normes environnementales reste une priorité absolue, écrit Première Resources dans ce communiqué. Toutes les équipes sont mobilisées pour assurer un redémarrage maîtrisé et sécurisé des opérations avec un objectif clair, retrouver la performance du premier trimestre 2024, c'est-à-dire atteindre une production de 3500 tonnes par mois en sécurité. Premier Resources rappelle toutefois que l'arrêt des activités pendant 7 mois a entraîné une perte totale de revenus, ce qui a mis la trésorerie de l'entreprise dans une situation extrêmement fragile. Bien que le redémarrage soit une étape vitale, il ne garantit pas à lui seul la pérennité à long terme, indique Premier Resources dans ce communiqué qui se félicite toutefois du redémarrage des opérations qui est un signal fort. Mais il rappelle que la performance collective et la solidarité seront les clés pour assurer un avenir durable à l'entreprise. Premier Resources qui annonce donc ce matin le redémarrage de ses activités industrielles et minières. La suite de ce journal, c'est donc le rendez-vous du lundi, la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Depuis le 13 mai, chaque jour qui passe ou presque, la Nouvelle-Calédonie fait le dos rond en attendant la prochaine catastrophe. Et nous avons été servis. Après le déferlement d'une violence insurrectionnelle inédite, nous avons vécu en juin la dissolution de l'Assemblée nationale qui a rendu plus aléatoires les aides de l'État et qui nous a contraints à des législatives anticipées dans un climat qui ne s'y prêtait pas. Nous avons attendu septembre, pendant que la métropole vivait la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques, pour avoir un gouvernement de plein exercice avec un Premier ministre conscient de nos difficultés, un ministre des Outre-mer connaisseur du dossier et des ministres du budget et des comptes publics qui semblaient prêts à répondre à nos besoins, même si, ici ou là, certains se plaignaient des dispositions prévues par l'État. Le ministre des Outre-mer est venu sur le territoire, suivi des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, puis du responsable de la mission interministérielle. Nous avons même réussi entre-temps à reporter les élections provinciales prévues à l'origine avant la fin de l'année, preuve que, malgré tout, les choses avançaient. Et voilà que tout peut être remis en cause à la suite de l'adoption d'une motion de censure qui fait tomber le gouvernement Barnier 3 mois et 3 jours seulement après sa constitution. C'est sûr que la Calédonie n'avait pas besoin de cela. Et on se demande s'il va falloir tout recommencer avec quelques questions angoissantes. Dans quel délai sera nommé le prochain Premier ministre ? Surtout quand on sait qu'en général, le président de la République prend son temps dans ce genre de circonstances. Et surtout, quel nouveau Premier ministre et quelle sera son attitude à l'égard de la Nouvelle-Calédonie ? Quel ministre des Outre-mer et que deviendra la mission interministérielle ? Quel budget 2025 et la nouvelle loi de finances prendra-t-elle en compte le prêt garanti par l'État ? Alors certes, le président de la République a déclaré que ce budget devait permettre de venir en soutien de la Nouvelle-Calédonie. Mais désormais, on reste très prudent. Sans oublier que l'on a évité le pire avec l'adoption in extremis de la loi de fin de gestion qui permet de débloquer les 27 milliards qui nous permettront de terminer l'année sans trop de dommages. On espère qu'aucun élu, aucun groupe politique du Congrès n'aura l'imbécilité de voter contre la décision modificative qui intègre cette aide indispensable. Mais on sait qu'avec certains, le pire est toujours possible. L'autre conséquence de la chute du gouvernement Barnier, c'est bien sûr l'incertitude concernant le calendrier des discussions sur l'avenir institutionnel. Et à ce titre, l'annonce faite ce week-end a des allures de divine surprise. Une réunion des groupes politiques s'est tenue à Paris sous la présidence de Yael Braun-Pivet et de Gérard Larcher pour faire un point sur le calendrier de reprise des discussions. Il prévoit un dialogue entre Calédoniens avant le 15 janvier et des négociations sous l'égide de l'État du 15 janvier au 15 mars pour la recherche d'un accord avant le 31 mars prochain. Le format de discussion sera celui des forces politiques représentées au Congrès, ce qui chez les indépendantistes inclut l'UCF-LNKS et l'UNI, mais pas la CCAT. Pour l'instant, tout le monde a l'air content, sauf les sénateurs qui n'ont pas été invités. Georges Naturel a d'ailleurs fait part de sa désapprobation à Gérard Larcher en regrettant fortement, et je cite, « que l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie soit discuté au Sénat sans les deux membres de l'Assemblée que vous présidez et qui la représentent. » Comme quoi, il est difficile de faire plaisir à tout le monde. Il est un peu tôt, bien sûr, pour crier victoire, d'autant plus qu'en matière de calendrier, on est un peu échaudé ces derniers temps, aucun d'entre eux n'a été respecté. Mais tout en restant prudent, après cet enchaînement de coups durs, on a envie d'y croire.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Marc, que vous retrouvez évidemment comme chaque semaine sur notre site internet. Vous pouvez aussi la réécouter cet après-midi, ce sera juste après le rendez-vous info de 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Êtes-vous rassuré par l'annonce d'un calendrier de reprise des discussions pour la recherche d'un accord avant le 31 mars prochain ? Si cela vous rassure, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. 11h39, une première pause dans ce journal. On se retrouve pour parler des températures chaudes de ce début de semaine, mais aussi du Betty Joe qui est toujours à quai.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Un an de salaire à gagner avec Nestlé.
Jusqu'au 31 décembre prochain, tente de remporter un an de salaire en bon d'achat à dépenser dans tes enseignes préférées.
Pour jouer, achète deux produits Nestlé, écris ton nom, prénom et numéro de téléphone derrière ton ticket de caisse et glisse-le dans l'urne en magasin.
Participe en ligne sur jeunestlé.nc/salaire. Règlement du jeu disponible chez Nestlé et chez Maître Citrita.
Jeu gratuit sans obligation d'achat.
Chez Gémeaux, préparez vos fêtes de fin d'année en un clin d'œil. Des vêtements chics et décontractés pour toute la famille, des chaussures, des accessoires de mode et bien sûr, des idées cadeaux pour gâter tout ce que vous aimez sans vous tromper et au meilleur prix. Gémeaux, taillé pour les fêtes.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Ça ne vous a évidemment pas échappé. Depuis plusieurs jours, les températures sont particulièrement chaudes sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, par exemple, le thermomètre devrait afficher jusqu'à 36 degrés au plus chaud de la journée. Une situation météo qui n'a rien d'exceptionnel, nous a expliqué Christophe Point-Dumont. Il est climatologue au Centre Météo France de Nouvelle-Calédonie.
On est normal dans le sens où on rentre dans l'été, on vient de passer le solstice, les journées sont très longues, elles chauffent beaucoup. Et on est quand même encore toujours avec des nuits qui, par moments, peuvent être fraîche, qui fait qu'on a vraiment un ressenti de chaleur la journée. On s'aperçoit que c'est essentiellement le sud-ouest qui a chauffé le plus là ces derniers jours. Ces fluctuations d'écart qui font que Notre organisme s'adapte et on a vraiment un ressenti de chaleur qui est exacerbé. On est sur une bascule. On rentre dans la saison chaude. On a fini un peu la saison intermédiaire. Donc oui, ça va durer quelques semaines. Je vous rappelle que le mois de janvier 2024 a été le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré ces 50 dernières années. On monte encore en température. Il va faire chaud, ça c'est indéniable. C'est l'été. On est dans une configuration normale climatologique d'un début de rentrée dans l'été.
Et concernant les précipitations, les services du Centre Météo France de Nouvelle-Calédonie prévoient une légère dégradation du temps pour le milieu de la semaine, avec des pluies éparses qui circuleront dans un flux de nord-est. Le Betticcio reste à quai. Le bateau a subi une avarie il y a 3 semaines et n'est toujours pas prêt à reprendre ses rotations, Nicolas Legrand.
Oui, la reprise du trafic maritime vers les îles est encore reportée. La rotation qui était prévue aujourd'hui avait été annulée dès jeudi dernier. Il reste en effet des ajustements techniques pour remplacer le générateur défectueux avant de reprendre la mer. Écoutez Édouard Castin, le directeur général de la Sud-Île.
On est encore en train de se débattre avec des problèmes techniques et réglementaires. Donc on a encore un certain nombre de contrôles et d'essais à faire. Un moteur qui avait une fuite, ça s'est réglé. Par contre, on a un problème avec une génératrice de secours qui n'est évidemment pas disponible. Donc, on a dû trouver une solution de remplacement en mettant un groupe électrogène à la place. Du coup, ça crée des problèmes d'emplacement. Enfin, c'est assez compliqué à gérer par rapport à un échange standard. Et donc, on ne peut pas annoncer pour le moment une date de reprise ferme. On essaye au jour le jour de voir ce qui est possible de faire. En tout cas, tout le monde est mobilisé pour que ça reparte le plus vite possible. Très sincèrement, j'espère que ça va repartir cette semaine. Mais ce qu'on a eu comme déboire jusqu'à présent, on est un peu plus prudent.
Et par ailleurs, la Sud-Île informe la clientèle que les tarifs en 2025 vont augmenter. Une décision prise en raison de l'effet cumulé de la hausse du prix du carburant, de la baisse d'activité depuis les émeutes et de la suspension des subventions.
La réalité des problèmes financiers de la Calédonie nous rattrape. Et donc, on n'a plus de soutien comme on pouvait avoir par le passé, ni de la province des îles, ni du gouvernement, pour des raisons budgétaires qui sont tout à fait compréhensibles. Donc, nous, notre solution pour maintenir à la fois la survie de l'entreprise et celle du transport service public, c'est de s'appuyer un peu plus sur nos clients avec une augmentation tarifaire qu'on a calculée pour qu'elle soit la moins forte possible, mais qu'elle nous permette de nous passer de toute subvention. C'est autour d'une 10% d'augmentation. C'est quand même quelque chose qui est raisonnable pour les clients, mais qui va nous permettre de maintenir l'activité, même si les difficultés financières de la province et du gouvernement et de la Nouvelle-Calédonie persistent.
Et cette nouvelle grille tarifaire sera publiée d'ici la fin de l'année sur le site du Betticcio. Les clients peuvent également contacter le 260-100, le 260-100.
David Guyenne devrait être reconduit pour un second mandat à la présidence de la CCI. Sa liste est arrivée en tête des élections pour renouveler les institutions de la Chambre consulaire la semaine prochaine. Et en fin de semaine, il devrait donc retrouver son siège de président. Son deuxième mandat sera marqué par la crise économique engendrée par les violences insurrectionnelles du mois de mai. David Guyenne, qui était notre invité ce matin à 7h30, estime que le profil de ses colistiers est un atout pour faire face aux urgences des entreprises.
Les élus qui ont été choisis sont des chefs d'entreprise qui souffrent beaucoup de la situation, soit parce que leurs entreprises ont été détruites, soit parce que le monde aujourd'hui économique calédonien et social ne va pas bien. Ils vivent ce que la plupart des chefs d'entreprise vivent, et de manière même parfois amplifiée. Et ce qu'ils vont faire dans leurs entreprises, ils peuvent l'apporter à la CCI pour accompagner au mieux les chefs d'entreprise. Il y a deux cas de figure. Le premier, c'est évidemment les entreprises brûlées, où la problématique des indemnisations commence à maintenant à muter vers une réouverture pour bénéficier des garanties de part d'exploitation. Et le deuxième cas de figure sont les entreprises qui, elles, tiennent toujours, et la survie est toujours leur problème principal.
David Guyenne est aussi revenu sur la nouvelle tranche d'aide de 27 milliards de francs prévue dans la loi de fin de gestion 2024 qui a été votée par l'Assemblée nationale juste avant la motion de censure qui a fait chuter le gouvernement.
Si on regarde l'affectation de ces financements, ils vont servir aux collectivités. Donc les entreprises, finalement, ne vont avoir qu'une petite partie de ces financements indirectement. Alors déjà, pour payer les travaux qui ont été réalisés mais qui n'ont pas été payés. Donc ça, c'est une conséquence directe. Et la conséquence aussi indirecte, c'est de payer des salaires qui vont permettre d'alimenter le circuit de consommation de la Nouvelle-Calédonie. Les aides directes envers les entreprises, aujourd'hui, mis à part le financement du chômage partiel, qui n'est pas encore confirmé dans une connaît pas les contours, les aides directes sont arrêtées Et pour nous, c'est
notamment
un vrai problème.
Le fonds de solidarité.
Absolument, c'est le fonds de solidarité qui aidait les toutes petites entreprises. Et le fait que ce dispositif ne soit pas reconduit nous inquiète et va renforcer un petit peu le rôle d'accompagnement de ces structures pour qu'assez rapidement, elles puissent muter, elles puissent se réorganiser pour faire face à la nouvelle situation économique.
La CCI au sein de NCECO va porter une vision de long terme pour la refondation de l'économie calédonienne. David Guyenne souhaite continuer à travailler notamment avec la mission interministérielle conduite par Emmanuel Moulin qui, selon lui, existe toujours.
Nous, le monde économique, après les émeutes, on s'est tous réunis pour écrire notre projet commun. Ce projet commun, NCECO, on l'a transmis aux différents partis politiques et aux différentes parties prenantes de ces négociations avec trois messages forts. D'abord, il nous faut du temps long pour pouvoir investir, pour pouvoir reconstruire. Il nous faut une visibilité sur la réduction des dépenses publiques, parce que là encore, la soutenabilité de la Nouvelle-Calédonie passera par une fiscalité attractive. Et il nous faut des institutions stables et qui soient tournées vers l'économie et la société. Donc si ces trois messages sont entendus, évidemment, nous soutiendrons la démarche politique, tout en rappelant que le monde économique s'est battu, se bat toujours pour être associé à ces échanges, pour être certain que nos objectifs soient pris en compte dans la solution institutionnelle.
Et au cours de cette mandature, le bureau de la CCI va aussi travailler sur son fonctionnement, notamment en mutualisant les moyens des trois chambres consulaires. Enfin, David Guyenne affirme que l'aéroport de la Tontouta, qui est géré par la CCI, doit rester une concession d'État et ne doit pas faire l'objet de discussions dans le cadre des discussions sur l'avenir institutionnel.
Au cœur de Noël, avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Une opération au cœur de Noël lancée il y a une semaine maintenant, qui se poursuit bien sûr sur Radio Rythme Bleu grâce à votre générosité et aussi votre discrétion, parce que vous passez à la radio régulièrement pour déposer des cadeaux pour les enfants de 0 à 16 ans. Cadeaux, je vous le rappelle, qui seront distribués aux familles en difficulté, aux familles qui ont subi notamment de plein fouet les exactions grâce à nos partenaires Secours Catholique, Croix-Rouge, Société Saint-Vincent de Paul et le concours de la Table Ronde Française. Des cadeaux que vous pouvez déposer tous les jours à la radio de 7h30 à 19h, ce que vous faites, ou alors au magasin Petit Dôme qui est situé sur la route de Lanzvata et qui nous accompagne dans cette opération au cœur de Noël avec beaucoup de générosité, je le disais, de discrétion. Ce matin, par exemple, Claude est passé déposer un joli cadeau.
C'est pas la première fois déjà, j'en ai déjà fait. Et puis, en ce moment, il y a beaucoup plus de besoins qu'habituellement. Cette année particulièrement, oui, c'est sûr. Ben là, j'ai amené un petit train de Noël pour les enfants de 4-5 ans. Joyeux Noël à tous les habitants du Caillou. Et surtout, j'aimerais bien que les gens deviennent un peu plus sages et arrivent à nous trouver une solution pour notre avenir.
Voilà un geste et un petit message, comme vous le faites souvent. En tout cas, merci. Merci pour votre générosité qui se manifeste chaque jour à Radio Rythme Bleu. Et n'oubliez pas que cette opération se poursuit, bien évidemment, au cœur de Noël. On vous attend à la radio de 7h30 à 19h. Une pause dans ce journal. Dans un instant, ce sera l'actualité à l'étranger. Nous commencerons par évoquer la chute du Syrien Bachar el-Assad et de son régime.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon, Magenta, à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Chaque mardi à midi, sur RRB, retrouvez votre magazine citoyen parrainé par la Province Sud. Un rendez-vous consacré aux questions et aux faits de société. Citoyen, c'est le magazine qui participe à la vie et à la construction de la Nouvelle-Calédonie. Tous les mardis à midi, retrouvez votre magazine citoyen.
La Province Sud, agir pour l'avenir.
Ho ho ho! Huggies vous gâte pour Noël! Du 2 au 29 décembre, jouez avec Huggies et tentez de gagner l'un des trois bons cadeaux de 200 000 francs à valoir chez BB9. Pour jouer, rendez-vous dans l'un des magasins participants. Plus d'infos sur la page Facebook Le 4.
Jeu gratuit sans obligation d'achat, règlement disponible chez Maître Citrita.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité dans le monde et en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
Le régime syrien de Bachar el-Assad est tombé. Le dirigeant a même fui son pays par avion dans la nuit avec sa famille, direction Moscou. où il a reçu l'asile pour raisons humanitaires, précise le Kremlin. Bachar el-Assad était arrivé au pouvoir en 2000, perpétuant la dictature instaurée par son père Hafez el-Assad. Et depuis 2011, le pays était entré en guerre civile. Le régime, complètement gangréné, a cédé il y a quelques jours, alors que les islamistes ont lancé une offensive par le nord du pays et qu'ils ont pris Damas, la capitale, très rapidement. Maxime Gandelot pour Europe 1.
Tout s'est passé en quelques heures. Les forces rebelles et djihadistes ont pris le contrôle de Damas. Bachar el-Assad s'est enfui en avion avec sa famille. Il a trouvé asile à Moscou, selon les médias russes. La Russie qui a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour demain. Des centaines de milliers de personnes sont dans les rues. Des scènes de liesse et de joie sont relayées sur Internet. Des statues sont déboulonnées, les portraits d'Al-Assad brûlés, des drapeaux à bandes vertes et triplement étoilés refont surface. À la frontière, au nord avec la Turquie, des centaines de vidéos montrent des voitures en file indienne qui reviennent dans le pays. Des Syriens qui ont fui le régime de Bachar el-Assad par le passé. Les prisons ont été ouvertes, les détenus libérés et le palais présidentiel a été pillé. Le premier ministre syrien déclare être prêt à travailler avec tout nouveau dirigeant choisi par le peuple. De son côté, Joe Biden a annoncé ce soir que les États-Unis maintenaient leur mission contre Daesh et donc une présence militaire en Syrie.
Et le nouvel homme fort du pouvoir syrien, c'est Mohamed Al-Joulani, un homme au profil inquiétant qui est en fait l'un des terroristes islamistes les plus recherchés du monde, explique Sébastien Le Belzic, grand reporter à Europe 1.
Même s'il ne porte plus en public le turban des djihadistes, lui préférant un uniforme militaire, Abu Mohammed Al-Joulani reste avant tout un chef terroriste. Il est même l'un des hommes les plus recherchés de la planète. Sa tête est mise à prix 10 millions de dollars par les États-Unis. À 42 ans, ce Syrien a déjà une longue expérience du djihad. Il a combattu tour à tour pour Daesh et Al-Qaïda et il est à la tête depuis 2017 du groupe terroriste HTC. Al-Joulani a combattu notamment les troupes américaines en Irak. Il a même passé 5 ans en prison là-bas. Pour l'instant, la priorité d'Al-Joulani est d'installer son pouvoir. Ça pourrait aller très vite, hein, puisque ces dernières années, il a bâti avec son groupe dans les régions du Nord-Ouest, sous son contrôle, une administration bien organisée avec des juges et une police des mœurs. Administration guidée par une idéologie islamiste sunnite conservatrice et très dure, qui réprime violemment toute dissidence. Raison pour laquelle son arrivée au pouvoir à Damas est qualifiée par l'administration américaine de succès catastrophique.
Et à la suite de cette prise de la Syrie par les islamistes, l'armée américaine a mené une attaque aérienne sur 75 sites aux mains des islamistes. « Nous ne laisserons pas Daesh se reconstituer et tirer profit de la situation actuelle », a déclaré Joe Biden. En métropole, le week-end a été dominé évidemment par la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. De grandes festivités qui ont culminé avec la première messe célébrée dans la cathédrale restaurée. Messe célébrée par l'archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, en présence d'une assemblée triée sur le volet et au cours de laquelle un nouvel autel a été consacré. Et la nuit dernière pour nous, les fidèles ont pu pour la première fois assister également à une messe qui a rassemblé 2500 personnes.
Je suis assez impressionné par à la fois la chorale qui était magnifique et puis surtout ce monument. Et puis aussi très touché par ce que disait Mgr sur la recherche d'unité. Il en a parlé au début de sa messe. Que toutes ces personnes qui ont œuvré pendant 5 ans, il y avait un vrai sentiment d'unité entre en fait, tout le monde, croyants, non-croyants. Et je crois que c'est ça qui me touche le plus.
Et une messe qui a aussi permis aux fidèles de redécouvrir la cathédrale.
En fait, elle est gigantesque et surtout elle est hyper lumineuse. Enfin, on voit vraiment de partout et ça, c'est hyper agréable. Même si elle est grande, en fait, je trouve qu'on peut vraiment, bien sentir. Enfin, je pense qu'elle est pleine, mais on peut bien sentir à prier ensemble et être en communion quoi, avec tous les chrétiens.
Et après les festivités de la réouverture de Notre-Dame, le chef de l'État retrouve la réalité politique. Il doit nommer un Premier ministre. Pour cela, Emmanuel Macron lance des consultations. Il doit recevoir la nuit prochaine pour nous les communistes, les écologistes, mais pas la France insoumise qui a décliné son invitation. Emmanuel Macron qui revient donc au centre du jeu. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Après 3 mois en retrait sur la scène nationale dans l'ombre de Michel Barnier, Emmanuel Macron n'est pas mécontent de revenir au centre de l'attention. Paradoxe de la censure de son gouvernement, elle le remet en selle en lui permettant de nommer un nouveau Premier ministre. Le voilà replacé dans la position qu'il affectionne de maître des horloges. Contrairement à l'interminable attente de cet été, les conseillers du chef de l'État promettaient que cette fois, il irait vite pour trancher. Mais Emmanuel Macron a finalement décidé de lancer un nouveau tour de consultation qui se poursuivra demain. En se plaçant au-dessus des partis, il entend renforcer sa position de surplomb, se présentant comme garant des institutions et de l'intérêt général. Et même s'il est plus fragilisé que jamais, le chef de l'État espère trouver la solution qui lui permettra d'éviter une nouvelle dissolution grâce à un socle commun élargi permettant à un gouvernement de tenir jusqu'à la fin de son mandat.
Il est 11h et bientôt 56 minutes.